Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?» en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et on a le plaisir d'accueillir pour notre émission qui sera consacrée à la question du rapport entre la société et les institutions, et dans une première partie avec Catherine Bréchignac, qui est secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences et ambassadrice déléguée à la science, la technologie et l'innovation, on évoquera la question des interactions entre la société et le monde scientifique, notamment dans le cadre de ce qu'on a vécu depuis quelques mois, c'est-à-dire la crise du Covid. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On a souhaité vous avoir dans cette émission parce que on évoquera la manière dont la défiance ou la montée du scepticisme a frappé les institutions politiques. Mais dans la première partie de l'émission, moi je voudrais aussi vous interroger, puisque vous êtes vous scientifique, vous êtes totalement investi dans ces sujets depuis très longtemps, comment finalement vous avez vécu toutes les controverses et toutes les critiques subies en particulier par le monde médical, mais aussi par le monde de la recherche, au moment où le Covid est apparu et où finalement, alors qu'on s'attendait à avoir peut-être une réponse coordonnée, des positions très claires, on a au contraire vécu une succession de polémiques, d'argumentaires, de contre-argumentaires, et on a eu l'impression finalement qu'à l'image du pouvoir politique, le monde scientifique était un petit peu déstabilisé par cette crise.
Bon, alors, tout d'abord, s'il y a eu des critiques, c'est parce que les gens ont pris peur, et ça se comprend, dans une période de pandémie, les gens commencent à se dire, et si je tombe malade, qu'est-ce qui va se passer? Donc les gens ont eu peur. Deuxièmement, la science ne peut pas répondre à tout, contrairement à ce que les gens peuvent penser. La science ne peut pas répondre à tout quand le sujet n'est pas stabilisé au niveau scientifique, on est dans la phase recherche et pas dans la phase savoir. Et c'est ce qui s'est passé parce que là, au niveau de la recherche sur le coronavirus, on était dans une phase où la recherche se construisait, où le savoir se construisait. Et quand le savoir se construit, il se construit à partir d'essais, d'erreurs, d'avancées, de reculs, de discussions. Et ça, c'est apparu au grand jour au niveau des médias et au niveau de la société. Avant, c'était ce genre de discussion se faisait surtout dans les laboratoires, surtout dans les séminaires internes, tant que la science n'était
dans
pas
les
vraiment
revues.
Stabilisée.
Dans les revues.
Parfois dans les revues, mais dans des revues scientifiques que seuls les scientifiques lisent. Tandis que là, comme on était sous la pression, en fait, et c'est normal, eh bien, on s'est trouvé sous la pression alors qu'on n'avait pas la réponse. On n'avait pas la réponse à la pandémie. Et donc, on est arrivé dans une phase un peu chaotique, ce qui est normal chez nous, mais qui est apparu de manière très très forte dans l'arène publique. Alors, là-dessus, se sont greffés des gens qui ne sont pas des vrais scientifiques, qui sont des experts, soi-disant des pseudo-experts, etc. Chacun a raconté son histoire et tout le monde a voulu rajouter quelque chose, alors que on était quand même pas du tout dans une phase de réflexion au niveau scientifique. C'était vraiment une phase de qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit arriver une maladie qu'on ne connaît pas. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la recherche qui se fait au niveau de l'ARN messager, elle est très ancienne. Elle date, ça a été mis en évidence par les Français, par Monod, Jacob et Wolf, qui ont eu le prix Nobel en 1961. Donc c'est très ancien. Et donc, on a travaillé dessus, sauf que l'ARN, c'est quelque chose qui est très fragile et qu'on n'avait pas réussi à le stabiliser. Et puis, il y a une dizaine d'années, on a arrêté de travailler sur ce sujet en France et les Américains et les Allemands ont continué à travailler dessus. Et quand est arrivée la pandémie, les scientifiques se sont dit « mais il faut repenser à l'ARN » et c'est là où on a mis le paquet pour... les scientifiques mondiaux, je veux dire, ont mis le paquet pour avancer sur et trouver la solution au vaccin. Parce que dans ce cadre-là, il n'y avait que le vaccin pour soigner. On n'avait pas d'antiviraux qui correspondaient à la maladie. Donc ça, c'est la partie scientifique. Et la partie scientifique a été relativement pas mise en valeur parce que les scientifiques étaient dans les labos, ils travaillaient. De l'autre côté, il fallait se protéger. Et donc, pour se protéger, on s'est trouvé un peu démunis et on est revenu à des choses complètement ancestrales. C'est-à-dire, pour se protéger, on met des masques, on reste chez soi. Et donc, il y a eu tout un tas de discussions, mais qui ne sont pas de la science, en fait. Et donc, il y a eu un amalgame sous la pression et la peur. Et moi, je comprends très, très bien la société de prendre peur. Alors après, ils sont partis des tas d'histoires sur les vaccins et la remise en cause un peu de tout parce que l'amalgame s'est produit et donc a donné ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce qui n'est pas anormal d'ailleurs, je crois qu'il faut pas jeter la pierre ni aux uns ni aux autres. C'est comme ça, on est tous des êtres humains et on veut tous faire avancer la connaissance.
Alors vous comprenez qu'effectivement, il y a eu assez peu de pédagogie et qu'on a rarement distingué dans les discussions, même y compris le gouvernement, la différence entre la recherche, le savoir et expliquer qu'effectivement, il y a forcément des tâtonnements, des hypothèses. Certaines hypothèses sont testées, puis les tests prouvent que il faut passer à une autre hypothèse. Or,
voilà, exactement.
Le problème, c'est que le politique, en devant gérer cette crise, a souvent affirmé des choses, y compris en s'appuyant sur des scientifiques, des médecins, des chercheurs, qui malheureusement ont été démentis, et du coup, ça a créé le trouble.
Oui, alors en fait, les politiques étaient démunis, mais ça, je le comprends bien. Les politiques avaient besoin de...
Mais ils l'ont jamais dit. Ils ont toujours fait comme si tout était sous contrôle.
Oui, mais moi, je pense que ce qu'il faut, c'est faut toujours raconter la vérité. Et c'est pas la peine de raconter des histoires. Quand on sait pas, on sait pas. Quand on sait, on sait. C'est pas la peine de raconter des choses en disant oui, on sait, mais on vous le dit pas, ou est-ce que je sais, moi. Ça, c'est le côté des politiques. Donc, le politique, il faut pas non plus le jeter la pierre. Il était sous pression. Et c'est pas évident quand une population commence à s'alarmer, à essayer de la calmer pour lui dire attention. Ne vous agitez pas trop parce que ça va être bien pire que si vous ne faites rien, vous restez confiné. Ça, c'est le premier sujet, c'est le sujet des politiques. Deuxièmement, les scientifiques, en fait, les scientifiques ne sont pas montés beaucoup sur le devant de la scène. C'est surtout, d'abord, les médecins, ce n'est pas vraiment des scientifiques. C'est de la recherche médicale, c'est de la recherche médicale. Ce n'est pas de la recherche déductive. C'est de la recherche empirique avec une certaine somme de connaissances. Donc on fait aussi des essais et des erreurs en direct. Bon, ça, c'est le premier point. Et puis deuxièmement, se sont greffés à ça des gens qui ne sont ni l'un ni l'autre et qui se sont proclamés, qui se sont autoproclamés experts et qui ont raconté tout et son contraire. Et ça a donné ce cafouillage. On est dans un monde aujourd'hui où... On a en place des réseaux sociaux qui sont le pire et le meilleur. C'est-à-dire, en fait, la communication est très ouverte, elle est fabuleusement intéressante parce que tout le monde peut s'exprimer, mais de l'autre côté, on n'a pas de structure pour définir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, quelles sont les choses qui sont... Parce qu'il y a des erreurs qui se produisent, il y a une différence entre une erreur et une fake news, par exemple. Et parfois, on fait des erreurs, et puis parfois, on raconte. Il y a des gens qui racontent des histoires. Donc, en fait, on est dans ce monde où tout le monde prend la parole. Il n'y a plus de tri de parole, et c'est aux gens, c'est à chacun à faire son propre tri, et c'est ça qui rend les choses très difficiles. Donc, l'émotion l'emporte sur la raison, et ça donne ce que ça a donné. Mais je crois qu'il faut en tirer des leçons et se dire bon, maintenant, on vit dans un monde qui est comme celui-là. On va essayer de mettre en place plus de transmission, plus de réflexion pour avancer.
Justement, c'est bien toute la difficulté de la période que nous vivons, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, Google, les réseaux sociaux, finalement, les gens croient s'approprier un savoir à travers des outils de popularisation des savoirs, mais parfois au milieu il y a des inepties qui se glissent et finalement les inepties sont au même niveau que les affirmations ou les hypothèses vérifiées par les scientifiques. Et d'une certaine manière, finalement, ça renvoie chacun à une conviction personnelle et on a l'impression de détricoter un socle commun autour de fondamentaux qui étaient, validés par le plus grand nombre. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une remise en cause de ce patrimoine scientifique et de cet acquis qui, en fait, n'est pas aussi acquis que ce qu'on imaginait.
Oui, alors si, il y a l'acquis qui est acquis, mais par exemple, si vous prenez le fait que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil, vous avez encore des platistes qui vont vous raconter des inepties. C'est épouvantable, mais qu'est-ce que vous voulez? Avant, ces gens-là existaient, mais on ne les voyait pas. Ils étaient cachés, ils ne parlaient pas. Tandis qu'aujourd'hui, on a tout le monde, chacun a le droit de s'exprimer, et de s'exprimer, surtout de s'exprimer sur ce qu'il ne connaît pas. Donc ça donne ce foisonnement de paroles qui n'est pas un foisonnement raisonné. Donc ça peut avoir des bons côtés parce que quelquefois de remettre tout en cause c'est pas mauvais, mais il faut quand même garder la raison. L'homme est un animal doué de raison, donc c'est quand même grâce à sa raison qu'il a pu progresser. Donc on va pas quand même commencer à casser la raison. Voilà, c'est simplement l'émotion, parce que bon, l'homme est basé sur la raison et sur l'émotion, les deux sont indispensables à son humanité, et l'émotion, quand elle l'emporte sur la raison, elle joue avec des mots et elle fait semblant de donner une fausse raison, et ça donne ce que ça fait des je dirais une logique qui n'est plus une logique rigoureuse. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, bon, c'est pas très grave parce que finalement, la pandémie, c'est une pandémie qui est embêtante, qui pose des problèmes, qui a vraiment bloqué quand même le monde pendant un certain temps. Mais imaginez si on avait eu une pandémie qui, si vous attrapez la maladie, vous avez une chance sur deux de mourir, quoi. C'était pas le cas. Donc, je pense que ça devrait nous servir de leçon pour la suite.
Alors justement, c'est bien la question, c'est est-ce que on aura appris de cette crise? Est-ce que d'une certaine manière l'humanité, parce que c'est quand même rare, un virus qui touche pratiquement toute l'humanité dans un espace-temps extrêmement court.
C'est rare, oui, parce qu'avant on ne se déplaçait pas à la vitesse à laquelle on se déplace aujourd'hui. Donc avant, quand il y avait les grandes épidémies, les épidémies de peste, de choléra, toutes ces épidémies-là, elles se propageaient lentement, elles se propageaient et elles restaient. On arrivait quand même à ne pas polluer toute la planète. Là, avec les avions, le mouvement des gens, évidemment, la pandémie. Elle a tout de suite enflammé la terre entière. Donc voilà. Maintenant, on est dans ce monde-là qui est un monde où tout le monde peut circuler comme il a envie de le faire. On reviendra pas en arrière. Donc, il faut penser à penser les pandémies au niveau global mondial.
Et donc, justement, ça doit vous interpeller, vous comme scientifique, qui connaissez la valeur du temps long. Et la nécessité pour aboutir à un savoir, à un acquis scientifique de la nécessité de faire des hypothèses. Parfois, elles sont contredites par les études. Parfois, elles sont validées. Et à ce moment-là, elles peuvent devenir partie prenante d'un patrimoine commun, d'un socle commun. Oui. Et en même temps, la société aujourd'hui, elle fonctionne plus du tout comme ça. Tout va vite. Médias d'information sont aujourd'hui omniprésents. Ils véhiculent parfois des choses justes, vérifiées scientifiquement, mais aussi parfois beaucoup d'erreurs ou parfois même des fake news. Comment est-ce que la scientifique que vous êtes, réagit par rapport à ça?
Aussi, je dois dire que même les scientifiques sont sensibles parce que à ce genre de choses, parce qu'ils sont très heureux quand leur nom est mis en avant, quand ils sont sous les sunlight, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est un problème. Ce sont des hommes et des femmes, et donc vous avez des gens qui sont très heureux de pouvoir être mis en avant. Donc, ils enjolivent un peu leurs résultats, et etc. Donc,
ils se donnent le beau rôle.
Voilà,
le sauveur, l'homme providentiel.
Voilà, c'est ça. Donc on a tout un continuum qui s'est mis en place. Alors maintenant, c'est comme ça, de toute façon, on reviendra pas en arrière parce que de toute façon, les réseaux sociaux sont là, la communication rapide est là, les choses sont là. Maintenant, il faut repenser comment, avec ces nouveaux outils, on va remettre de la raison et de la rigueur dans nos propos. Voilà, c'est ça qu'il faut, les choses auxquelles il faut penser. Après la pandémie, maintenant qu'on a compris pourquoi ça s'est passé comme ça, on peut se poser la question, comment remettre de la rigueur dans nos propos et essayer de repenser correctement. Et donc, c'est un peu l'objet de... Alors, un des ennuis et un des avantages, mais aussi de l'ennui, c'est que par exemple, on est tous devant les écrans. Le confinement, je pense qu'il aurait été très différent si on n'avait pas eu les écrans, par exemple. Imaginez qu'on n'ait pas eu d'écran. Imaginez qu'on n'ait pas pu communiquer, faire des apéros Zoom, est-ce que je sais, moi, tout ce qui s'est passé pendant tout le confinement. Est-ce que les gens auraient tenu?
Ça aurait été plus dur.
C'est pas sûr. C'est pas sûr, j'en sais rien. On peut pas savoir. On peut pas faire repasser le film à l'envers. Mais en tout cas, on est quand même un peu devant tributaire de nos écrans. Et alors du coup, on est seul par rapport à l'information. On a moins de maïeutique, moins de dialogue. Et donc, il faut repenser avec ces nouveaux outils comment remettre du dialogue humain. C'est la même chose pour l'enseignement. Il faut surtout pas éliminer les professeurs, les répétiteurs et mettre tout sur le numérique. Donc alors, ça c'est des points clés sur lesquels maintenant il faut qu'on réfléchisse parce qu'on est dans une transition. Une phase de transition, c'est pas une phase de rupture, hein. Une phase de transition, ça nécessite du temps. On peut prendre un peu de temps et pendant ce temps, on peut repenser.
Et donc, ça fait partie notamment des sujets que vous souhaitez aborder dans le cadre des rencontres capitales à l'Institut de France, 17-18 novembre, réinventer,
voilà. C'est-à-dire dans cette phase de transition, parce qu'on entend le mot transition partout, on entend la transition énergétique, la transition économique, la transition managériale, la transition démographique, etc. Eh bien, dans cette phase de transition qui n'est pas instantanée, l'un des points clés va être de réinventer quelque chose avec une rationalité.
Bah, écoutez, ça me paraît être le mot de la fin qui s'y est par rapport à notre
sans
émission.
Oublier évidemment l'émotion, bien sûr, parce que l'émotion est fondamentale hein, chez l'homme, hein, il faut la garder, l'amour et l'émotion.
Mais tout est une question d'équilibre.
Voilà.
Entre la raison et la passion, entre la raison et les émotions. Merci Catherine Béchignac pour cette réaction, ce témoignage à notre première partie de l'émission. Vous êtes, je le rappelle, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, ambassadrice déléguée à la science, la technologie et l'innovation, autrice également d'ouvrages scientifiques reconnus. Et on vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci à vous.
À très bientôt.
Au revoir.
Et si on en parlait? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?», une émission où nous avons reçu Catherine Bréchignac, qui est scientifique, dans la première partie pour questionner le doute, le malaise, le scepticisme autour de la question des autorités scientifiques, notamment à partir de l'expérience de la crise du Covid. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous recevons Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud.
Bonjour Alexis.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire et également professeur associé à la Sorbonne Université, en charge notamment des questions de communication. Vous avez écrit de nombreux ouvrages et récemment, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir aux éditions du CERF. Et vous dites, dans le titre d'ailleurs, finalement, vous exprimez ce que ressentent beaucoup de nos compatriotes, à savoir finalement aujourd'hui à quoi servent les politiques et est-ce qu'ils sont encore capables eh bien de diriger la France et d'avoir un rôle dans le destin de notre pays.
Oui, en fait, c'est une analyse d'abord dans un contexte très particulier qui est celui de la France où le politique est fortement investi d'attente parce que c'est le politique qui a construit l'État, c'est le politique qui a construit la société, c'est le politique qui a construit la nation. Donc l'objet politique a, disons, une dimension très très singulière et très spécifique dans l'histoire et dans la société française. Et ce que j'ai essayé d'analyser dans cet ouvrage, c'est à la fois, en effet, ce sentiment aujourd'hui d'impuissance dont un certain nombre de nos compatriotes investissent la politique, c'est-à-dire ils considèrent qu'aujourd'hui le politique n'est plus en mesure pour aller très vite de répondre à un certain nombre de problèmes parfois très concrets auxquels ils sont confrontés, qu'il a perdu tout simplement de son pouvoir. J'analyse aussi également, enfin en tout cas j'essaie là aussi d'analyser ce que l'on appelle la crise de la représentation. Il est clair qu'il y a aujourd'hui un lien très fort entre ce sentiment d'impuissance du politique et le fait que aujourd'hui le système représentatif n'apparaît plus pour là aussi de larges segments d'opinion en mesure de répondre à leurs attentes et à leur représentation. Et troisième paramètre, troisième plutôt phénomène que j'essaye aussi de comprendre, c'est ce que révèle un certain nombre d'études d'opinion, c'est que le politique, l'élu, le personnel politique, aujourd'hui, voit son image particulièrement dégradée dans l'opinion et le fait que la fonction politique apparaît comme profondément déclassée. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un lien entre ces trois phénomènes, à la fois l'impuissance du politique qui nourrit d'une certaine manière la crise de la représentation, et notamment caractérisée par la désaffection électorale, par la baisse du militantisme, cette crise de la représentation elle-même nourrit presque mécaniquement le déclassement et parfois la mauvaise image du politique. Donc c'est l'ensemble de ce processus que j'essaie de comprendre et de décrire, processus qui me semble en tout cas parcourir presque 50 ans d'histoire politique en France.
Alors justement, vous écrivez « Un brouillard épais enveloppe la relation des sociétés au pouvoir, les fractures, la confiance des citoyens dans leurs gouvernants, les fait douter de l'effectivité de leur utilité au mieux ». Les assimile à des hommes de paille mandatés par des puissances supérieures manipulatrices et ténébreuses. La politique témoigne ainsi d'une disparition, de cet effacement, la désaffection électorale et militante constitue l'un des nombreux syndromes. Ce que vous décrivez, c'est quand même plus ou moins le dépérissement de la démocratie, en tout cas telle qu'on la conçoit dans les sociétés occidentales.
Oui, c'est ça. Il faut s'entendre sur ce que l'on entend par politique. Il faut l'entendre. Entendre la politique au sens de la façon dont elle s'est construite démocratiquement dans les États-nations depuis maintenant deux siècles, notamment dans les sociétés européennes. C'est cet objet politique dont j'essaye d'analyser le dépérissement. En fait, il y a trois phénomènes là aussi qui peuvent l'expliquer. Le premier phénomène, c'est un phénomène que l'on connaît, qui est celui de l'interdépendance des États, le fait que la mondialisation réduit fortement les marges de manœuvre et donc la souveraineté des États-nations et notamment des États-nations européens. Il ne faut quand même jamais oublier que l'État-nation est une création à l'origine des sociétés européennes. Ça, c'est le premier phénomène. Deuxième phénomène, il y a un autre phénomène, c'est que en fait, les formes politiques telles qu'elles se sont construites, c'est-à-dire non seulement les États-nations, mais même les organisations interétatiques, multinationales, de fait, en tout cas multi-étatiques et multinationales, sont aujourd'hui concurrencées par de nouvelles formes d'organisation qui allient à la fois puissance économique et puissance technologique et qui viennent concurrencer directement les formes politiques que sont les États. Ces organisations, il y a notamment aujourd'hui les GAFAM qui disposent à la fois de moyens économiques, de moyens technologiques et de moyens politiques qui rentrent en compétition avec les États-nations, et parfois même les grands États que peuvent constituer les États-Unis ou d'autres grands États comme la Chine. Donc ça, c'est un phénomène qui est nouveau. Et un troisième phénomène qui est, alors lui, peut-être plus spécifiquement français notamment, mais c'est que on assiste à une montée en puissance depuis maintenant plusieurs décennies dans le personnel politique et dans le personnel dirigeant, une montée en puissance de ce qu'on appelle le pouvoir technocratique. Donc une technostructure qui se substitue progressivement aux politiques, qui, quelles que soient les alternances politiques, s'inscrit dans la durée et parfois donne le sentiment à nos compatriotes de véritablement diriger les États, bien plus que celles et ceux qui sont élus à intervalles réguliers lors de chaque élection.
Alors justement, ce que vous questionnez dans votre ouvrage, c'est finalement le fait que la montée de l'individualisme, qui lui-même est le fruit d'une société libérale, d'un libéralisme en tout cas politique et économique dominant, amène finalement à affaiblir tout ce qui est de l'ordre du collectif, parce que de plus en plus de Français sont convaincus qu'ils changeront la société non pas par le vote, non pas par la participation à des causes communes, mais par des choix individuels, personnels. Ça, finalement, l'effet de tout cela, c'est que ça dévalorise les institutions. Il y a moins de militants, il y a moins de votants. Et donc, paradoxalement, alors que les gens veulent continuer à peser sur leur destin, ils croient de moins en moins dans les outils institués au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, c'est un peu la difficulté. C'est qu'en fin de compte, si vous voulez, l'impuissance du politique, elle se nourrit aussi d'une atomisation de la société. Le fait que les individus se replient de plus en plus vers des modes d'action qui sont des modes d'action individuels et qui ne sont pas en mesure de s'agréger pour peser sur les grandes décisions et les grands choix. Moi, ce qui me frappe quand même fortement, c'est peut-être la dévitalisation de ce projet politique qui finalement est né au XVIIIe siècle, qui s'appelle la démocratie libérale. C'est-à-dire que la démocratie libérale, c'est à la fois un système institutionnel de contre-pouvoir, mais c'est aussi un système politique qui, se nourrit de la pluralité des opinions politiques et la pluralité des forces politiques. Et ce à quoi nous assistons progressivement, c'est à une sortie de cette pluralité, de ce pluralisme politique, c'est une sortie de la démocratie libérale. C'est véritablement la question fondamentale qui est posée, parce que, en fin de compte, la démocratie libérale, elle naît à travers une articulation entre, d'un côté, la souveraineté d'une nation, et un certain nombre de libertés. Aujourd'hui, le fait est que, quand on regarde de près le fonctionnement, encore une fois, des États-nations européens, parce que c'est surtout ça qui est, me semble-t-il, le plus important dans cette perspective, c'est que on voit que la notion de souveraineté s'est considérablement dévitalisée, et qu'un certain nombre d'enjeux politiques qui appartenaient à la question de la souveraineté ont disparu. Ne sont plus traités de manière souveraine par les peuples et les États-nations. J'en prendrai un qui, à mon sens, parle. C'est-à-dire que, par exemple, la question de la monnaie n'est plus une question qui se pose de fait au niveau politique. À partir du moment où le traité de Maastricht décide de faire de la politique monétaire une politique qui est confiée à une banque centrale indépendante, à partir de là, on considère que ce sujet, qui est pourtant éminemment politique, finalement, doit être traité d'abord techniquement. Donc il échappe, in fine, à la souveraineté et au mode de délibération. Et là, en effet, on a un processus de dévitalisation démocratique tel que...
Et vous citez également le traité de Lisbonne sur les institutions.
Alors le traité de Lisbonne, c'est très intéressant, parce que le traité de Lisbonne, si vous voulez, et je pense que ça, c'est un, on est au cœur vraiment du, on est au cœur de la crise que l'on est en train de vivre en matière à la fois de représentation, mais aussi de participation politique, c'est que vous avez en 2005 le traité constitutionnel, le projet de traité constitutionnel qui est rejeté par 55% des Français, mais qui revient par la fenêtre en 2008 sous la forme du traité de Lisbonne. Il y a là un processus qui vise tout simplement indirectement à démonétiser le vote, à le dévaloriser, puisqu'à partir du moment où un vote n'est plus pris en considération et qu'on peut outrepasser et transgresser ce vote, à quoi bon aller voter? C'est en tout cas, je pense, l'un des éléments peut-être les plus importants qui exclut une grande partie de nos concitoyens, considèrent que aller voter ne sert plus à rien. Ne servirait plus à rien.
Alors, ma dernière question, ça sera un petit peu d'essayer de d'évaluer les causes de ce grand malaise du pouvoir. Est-ce que selon vous, les causes sont plutôt, et vous abordez la question de la globalisation qui finalement fragiliserait dans son processus d'uniformisation la démocratie libérale qui est plutôt au contraire fondée sur le pluralisme, donc l'uniformisation provoquant une forme de réaction identitaire et un repli illibéral? Et est-ce que, au-delà de ce phénomène qui semble toucher d'autres pays, est-ce que la France n'est pas particulièrement fragilisée du fait de ses spécificités propres, et notamment ses institutions taillées sur mesure pour les générales de Gaulle? Mais finalement, le général de Gaulle, bah, c'est un produit de l'histoire, et il n'y en aura pas deux dans l'histoire de France. Et donc, du coup, ces institutions, elles souffrent aussi de ne pas être, je dirais, adaptées au fonctionnement normal des institutions, quoi.
Oui, alors le sujet, c'est de savoir... Il y a plusieurs questions, en fait. Dans votre question, la première question, c'est de savoir si aujourd'hui, la France souffre de par son histoire de manière plus violente de ce processus de dépossession que d'autres nations, certainement. Parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est que en France, le grand ordonnateur de la société, peut-être plus qu'ailleurs, c'est l'État. Et c'est l'État, historiquement, depuis presque, j'allais dire, même avant la République, même avant la Révolution. Donc cette réalité, elle pèse considérablement dans la perception que les Françaises et les Français se font de l'action politique à partir du moment où ils considèrent que l'action politique n'est plus en mesure véritablement de les protéger ou de maîtriser et de contrôler la situation. Parce que la politique, c'est quoi? C'est la volonté à un moment donné de maîtriser et de contrôler une situation. À partir du moment où il y a une perte de maîtrise, où il y a une perte de contrôle, ben c'est le pouvoir politique qui est mis en question. Ensuite, il y a la question des institutions. Est-ce que finalement, aujourd'hui, les femmes et les hommes politiques, qui sont ceux d'une autre génération, qui sont ceux d'une autre histoire, sont adaptés à des institutions politiques qui ont été, comme vous l'avez très justement dit, profondément façonnées par l'histoire personnelle d'un homme et l'histoire même d'une génération. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, en matière d'incarnation, puisque la politique, c'est aussi de l'incarnation à côté de la volonté de maîtriser et de contrôler, c'est que depuis finalement 2007, on n'a plus aucun des trois présidents qui se sont succédés qui est parvenu à incarner la fonction. En fait, jusqu'à Jacques Chirac, tous les présidents de la République pouvaient être contestés sur leur politique, et parfois violemment. Ça a été le cas de Giscard d'Estaing, ça a été le cas de Mitterrand, ça a été le cas de Jacques Chirac. Mmh. Mais ils bénéficiaient quand même d'un crédit quant à la façon dont ils occupaient la statue du commandeur. Et depuis 2007, il y a non seulement, bien évidemment, des critiques qui sont tout à fait légitimes en démocratie sur les politiques qui sont conduites et qui ont été conduites par ces trois différents présidents de la République, mais il y a surtout des critiques très fortes qui s'exercent sur la façon dont ils occupent la fonction, dont ils représentent symboliquement l'État. Donc on a finalement une double crise de la représentation. On a une crise de la représentation au sens d'une crise de l'offre politique, qui ne correspondrait plus, en tout cas, aux aspirations d'une grande majorité de nos concitoyens, d'où le phénomène de l'abstention, entre autres. Mais il y en a aussi une crise de la représentation politique dans sa capacité à incarner le pouvoir. Donc cette double crise aujourd'hui, bien évidemment, elle fragilise considérablement le système démocratique, et elle fait que, finalement, une société comme la société française est peut-être plus que d'autres, hein, d'ailleurs, plus que dans d'autres démocraties parlementaires qui sont plus banalisées, comme en Allemagne, en Espagne, voire même en Italie, que la société française est peut-être, malheureusement, plus ouverte à certaines formes d'aventures politiques qui menacent profondément les racines démocratiques de cet État.
Et on se rappelle que dans l'histoire de France, qui est une histoire longue, il y a eu souvent des aventures personnelles de Napoléon III au général Boulanger, jusqu'au pétainisme, avec l'irruption de personnages qui viennent finalement imposer un pouvoir personnel dans un pays qui est toujours démocratiquement fragile.
Oui, il y a toujours une tentative, il y a toujours une tentation de l'homme providentiel, hein, c'est-à-dire que quand les institutions ne sont plus en mesure de répondre aux aspirations et aux attentes du peuple, de l'opinion, dirons-nous aujourd'hui, il y a, en effet, des trajectoires personnelles qui viendraient répondre à un moment à une crise qui est une crise profonde. Alors, est-ce que nous sommes rentrés dans cette configuration ? C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la crise de confiance politique est une crise très grave que nous traversons et qui vraisemblablement a encore une fois une densité plus forte en France que dans d'autres sociétés européennes. Je prendrai juste un dernier exemple. Les taux d'abstention aux élections sont beaucoup plus forts en France qu'ils ne le sont ailleurs chez nos voisins européens.
Et ça doit donc nous questionner effectivement sur l'avenir de notre démocratie, qui est aussi l'avenir du pays. Merci Arnaud de Benedetti. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur de cet ouvrage qui vient de sortir, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, aux éditions Cerf. Merci Arnaud, à très bientôt. C'était l'émission sur Radio Orient, Et si on en parlait. À la semaine prochaine.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.